Au XVIIIe siècle, la grande chasse aux sorciers et aux sorcières est fort heureusement terminée, mais on n'en continue pas moins de brandir le diable, tel un épouvantail. L'excommunication conduit toujours au maître des ténèbres. On dit que ce dernier n'existe que par la volonté de Dieu. Qu'il cherche à récupérer des âmes pour peupler son enfer, certes, mais qu'il a aussi pour mission de punir les personnes impies de leur vivant. Dans la petite panoplie des excommunications, il y avait ce que l'on appelait les monitoires à des fins de révélation. Il s'agissait d'une procédure judiciaire qui servait à excommunier les malfaiteurs que l'on n'avait pas pu arrêter et les témoins qui ne les avaient pas dénoncés. À défaut d'effrayer les criminels qui risquaient gros en se faisant connaître, cette menace devait faire son petit effet sur les témoins, car bien souvent, le diable qui récupérait ses excommuniés se plaisait à les torturer en les transformant en garous. Toutefois, certains tenaient bon, comme ce fut le cas de Gliomino, un valet de ferme de Gréville dans la Manche, qui devint garou pour n'avoir pas dénoncé les criminels qu'il avait vus agir. Sur le territoire de Gréville, il y a un vallon, profond, boisé et sauvage, nommé le Val-Ferrand. Dans ce vallon, au milieu de grands arbres, il n'y a qu'une habitation et un moulin. En 1770, le propriétaire de la maison, M. de Ricmé, fut trouvé mort, tué à coups de hache en pleine journée, de même que le meunier. Une enquête s'ouvrit. Personne n'avait rien vu, ni rien entendu. Alors, un dimanche dans toutes les églises du canton, le curé lut en chaire un monitoire qui relatait les faits et qui sommait, au nom de Dieu, le ou les coupables à se dénoncer et les témoins à dire ce qu'ils savaient sous peine d'encourir l'excommunication. Le monitoire en question fut lu trois dimanches de suite. À la fin de la troisième lecture, le prêtre jeta à terre le cierge qu'il tenait à la main, l'éteignit en marchant dessus et en disant « Tout est consommé. L'excommunication est en cours. Les criminels, les témoins qui ne se sont pas déclarés sont rejetés de l'Église. » Personne ne s'était dénoncé. Pourtant, il y avait un témoin qui était présent ce jour-là dans l'église de Gréville et qui tremblait de peur. Un valet nommé Gliomino. Il dormait dans une grange et la nuit suivante, qui était celle de Noël, il sentit quelque chose de lourd tomber sur son dos. Une force irrésistible l'obligea soudain à se lever, à sortir et à courir le garou toute la nuit. Lorsque l'un de ses amis le retrouva le lendemain matin, il était brisé, éreinté, les mains ensanglantées et crottées jusque par-dessus la tête. Il fut bien obligé de lui dire ce qui s'était passé et ce qu'il avait mis dans cet état. Il était condamné à courir le garou jusqu'à la Chandeleur. Il fit sa peine, dit-on, et ne dénonça personne, si bien qu'on n'a jamais su qui avait tué M. de Ricmé et le meunier. Dans plusieurs récits, y compris au Moyen-Âge dans les évangiles des Quenouilles, le garou court de Noël à la Chandeleur. Il y avait jadis un vieux proverbe qui disait « De Noël à la Chandeleur, toutes bêtes font horreur. » Alors, que se passait-il donc dans les temps antiques durant cette période du 25 décembre au 2 février? Pourquoi l'Église a-t-elle clos le cycle de la Nativité le 2 février avec la purification de Marie? Pourquoi cette fête, fut-elle appelée la fête des chandelles ou chandeleurs. Quelle tradition, quelle cérémonie païenne nocturne a-t-on voulu remplacer à cette date qui marquait pour les anciens Celtes la moitié de la saison sombre? On sait par les récits irlandais que lors des grandes fêtes celtes, les hommes se revêtaient de peaux de bêtes et se coiffaient de cornes animales pour abolir les frontières entre les différents mondes. Est-ce que nos loups-garous relèvent de pratiques de ce genre? Comme toujours, faute de texte, cela restera un mystère.